Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme je vous le disais, ce dimanche est le dernier dimanche de l'année liturgique, cette année qui va se terminer samedi prochain, le 11 novembre, avec la fête de Saint-Martin de Tours. C'est donc la fin d'un cycle, la fin d'un temps. Et nous allons entrer dans un autre temps, un autre cycle. Notre vie terrestre s'écoule ainsi depuis le jour de notre naissance jusqu'au jour de notre naissance au ciel, dans une suite de cycles plus ou moins longs, comme le cycle journalier ou le cycle annuel, qui sont liés à notre évolution dans le cosmos. Alors cela nous donne peut-être l'impression d'un éternel recommencement, jour après jour, année après année. En réalité, chaque instant est différent du précédent et ne sera plus jamais le même. Nous évoluons comme dans une spirale, une vis d'Archimède, et chaque cycle a pour but de nous faire entrer de plus en plus dans le mystère de notre vie, dans notre intériorité, et de nous inscrire de plus en plus dans le plan de Dieu. Le désir de Dieu en créant l'homme était de l'inviter par amour à participer librement à sa vie divine. Mais la vie divine, cela s'apprend, cela se travaille et cela prend du temps. Dieu a déposé en chacun d'entre nous un germe divin que nous sommes invités à faire croître pour ressembler de plus en plus à notre Créateur. Et il a mis à la disposition de l'homme le corps, l'intelligence, la raison, les sensations, les sentiments, l'intuition, tous des outils pour nous permettre d'être dans une relation amoureuse continuelle avec lui et ainsi faire, par l'écoute et par des expériences successives, l'apprentissage de la vie divine. Alors, quel lien allez-vous me dire avec l'évangile du jour? Alors, je crois qu'il est bon peut-être de le resituer. Le Christ vient de mettre en garde ses disciples contre le comportement des pharisiens, des scribes, qui agissent de façon hypocrite, insensée, qui d'une certaine façon se prennent pour Dieu et qui se mettent à sa place, tout en croyant bien sûr agir dans la justesse et pour la grandeur de Dieu. Ses disciples montrent alors au Christ le temple de Jérusalem, sa splendeur, sa grandeur, sa magnificence. Et le Christ les met en garde. Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors étonnement des apôtres qui demandent, mais dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Parce que pour eux, la destruction du temple de Jérusalem, c'est en somme la fin du monde. Alors autant savoir quand cela arrivera pour se préparer. Le Christ donne alors une description qui doit les secouer. Il y aura des guerres, des famines, des catastrophes naturelles, des imposteurs qui se prennent pour Dieu, la haine entre les hommes qui empire et l'amour qui se refroidit. Mais il termine en disant « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il laisse ainsi un message d'espoir dans tout ce chaos qu'il vient d'annoncer. Oui, des catastrophes, des guerres, des famines vont arriver qui vont marquer la fin d'un temps, la fin d'une période. Et cette période est celle où l'homme vit coupé de Dieu et se bâtit un monde où l'argent règne en maître et est devenu le Dieu des hommes. On pourrait dire que cette période a commencé du temps de Saint François, fin du XIIe siècle, début du XIIIe, avec l'essor des villes et des marchands qui mettaient fin au Moyen-Âge et l'époque des seigneurs et qui plaçaient la course au profit au centre de leur vie. Et Saint François avait compris que placer comme cible de sa vie la recherche de l'avoir matériel nous écartait de notre chemin de divinisation. et son choix de vie avait été radical. Aujourd'hui, nous avons l'impression que cette période arrive à un paroxysme, tant l'argent, l'avoir est devenu le dieu du monde, avec toutes ses conséquences négatives qui conduisent le monde à sa propre perte. Et dans l'évangile de la Toussaint, le mercredi, souvenez-vous, nous avons entendu que le Christ disait « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive, l'épée. » L'épée que le Christ propose, c'est l'outil qui va nous permettre de mettre à bas tous ces liens, ces constructions égotiques que nous avons bâties, de couper ces liens mortifères auxquels nous nous sommes enchaînés. Plutôt que d'aller sur un chemin d'épousailles avec Dieu, l'humanité a choisi un autre époux, Satan, dont le seul but est d'empêcher la déification de l'humanité. La force de Satan est de nous faire croire que notre choix de nous mettre à la place de Dieu est judicieux, que nous n'avons pas besoin de Dieu pour vivre, que nous sommes capables par notre intelligence de nous en sortir seuls. La science et la technique, fruit de notre intelligence, nous conduit au bien-être, croyons-nous. C'est oublier que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comme disait Rabelais. La science est l'accumulation des savoirs. La conscience, c'est utiliser ces savoirs à bon escient. C'est en mesurer la portée à travers le prisme de l'intention divine et non celui du gain matériel. Est-ce que l'application que je fais de la science et des techniques est pour m'élever sur mon chemin de déification ou pour m'en écarter? La conscience est donc la voie de la sagesse et de la connaissance de Dieu. L'acquisition légitime des savoirs doit ainsi se faire non pas au service de soi-même, pour régner et pour dominer, comme nous avons hélas la fâcheuse tendance à le faire, mais d'être au service de Dieu. L'alliance avec Dieu, suivre les enseignements du Christ, se laisser remplir de son Saint-Esprit, est la voie de la sagesse. Se passer de Dieu et laisser grandir l'orgueil en nous, c'est entrer sur un chemin de perdition. Et l'évangile du jour nous montre les conséquences de nos actes, du mauvais emploi des dons que nous avons reçus de Dieu et dont je vous parlais au début. L'expression « l'abomination de la désolation » dont parle le Christ est extérieurement la destruction du temple de Jérusalem, mais aussi pour nous aujourd'hui, notre propre destruction. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint, nous rappelle saint Paul, et notre destruction collective ou individuelle sera aussi une abomination. La description catastrophique donnée dans l'Évangile nous dit ce qui pourrait arriver si nous ne changeons rien dans nos vies. Mais le Christ nous donne un formidable message d'espoir. Oui, nous vivons des jours de détresse, mais alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de Dieu. Ce signe, c'est la croix. C'est le symbole de l'amour inaliénable du Christ pour l'humanité. Le temps de Dieu n'a pas de passé ni d'avenir. Il est un éternel présent, un éternel instant. La croix, ce symbole de l'amour fou de Dieu pour l'humanité, celle à travers laquelle il s'est donné entièrement, est là, présente à chaque instant. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et saint Bernard disait que l'homme est cruciforme, qu'il étend les mains, et cela devient plus évident. C'est lorsque notre attitude est ouverte, comme la croix, que nous sommes à la ressemblance de Dieu. La croix, symbole de l'amour vrai, est notre vocation. Être ouvert dans l'amour à l'univers, au cosmos et à tout ce qu'il contient. Notre croix est fragile et nous sommes souvent enclins à la replier par crainte, par peur de perdre notre bonheur, nos biens, nos faux dieux que nous chérissons tant. Saint François disait à une maman qui voyait son enfant occupé à mourir, il ne faut surtout pas perdre confiance. On peut tout perdre, sauf la confiance. Et nous pouvons entendre cette parole aussi pour nous aujourd'hui. Le Christ dit la même chose lorsqu'il nous demande d'apprendre la comparaison du figuier. Dès que les rameaux deviennent tendres, que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme à la porte. Les temps difficiles que nous connaissons aujourd'hui, qui, je vous rappelle, ne sont pas voulus par Dieu, mais sont une autorétribution de notre ignorance et de nos égarements, nous donnent l'apparence, peut-être, que tout est perdu, que tout va vers la fin du monde, d'un temps en tout cas, irrémédiablement. Mais il y a des signes de vie qui apparaissent, des signes de retournement, de prise de conscience, des actes d'amour qui fleurissent çà et là. Le souffle vivifiant de l'esprit est toujours à l'œuvre pour ramollir notre cœur de pierre, pour insuffler en nous la vie en Christ et faire advenir un monde nouveau, un nouveau royaume où l'amour de Dieu retrouvera sa place première. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération dont parle Christ n'est pas une génération humaine délimitée par un certain laps de temps, 70 ou 80 ans, mais c'est l'ensemble de ceux qui ont une vie tournée vers le Seigneur, qui accueillent en eux la pure présence, qui ouvrent la porte à cette présence divine. Et depuis plus de 2000 ans, et même avant, cette génération existe. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout ce qui a été construit sur terre sera déconstruit. Tout ce qui a été composé sera décomposé. Les paroles du Christ conservent toute leur plénitude et leur force à travers les siècles. Elles ne cessent de s'accomplir tous les jours à travers des hommes et des femmes au cœur aimant. Les paroles du Christ sont les paroles de vie, d'amour et de vérité. Elles sont intemporelles. Alors préparons-nous et entrons joyeusement dans un nouveau temps pour accueillir celui qui est plus grand que nous et qui peut tout. Notre vie terrestre nous donne l'opportunité d'accompagner, de prendre part à ce triomphe de l'amour si nous nous laissons travailler par celui qui est amour. À lui soit louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.